Radio Campus, Radio Béton, Radio Active en direct du festival Désir Désir.
Nous sommes toujours en direct du cinéma Les Studios pour la 27e édition du festival Désir Désir avec Radio Campus, Radio Béton et Radio Active. Et on va parler à présent d'une performance qui a lieu vendredi, qui est donc dans le cadre du festival, qui aura lieu au Musée des Beaux-Arts à Tours. La performance s'appelle Le Bain de Diane par la compagnie Lapsus Chevelu et c'est Mélissa de Radio Campus qui nous en parle.
Voilà, alors cette interview, en fait, c'est un extrait que vous allez entendre, un extrait de l'interview de Vanassaï Kamfoumala, j'espère que je n'écorche pas son nom, un extrait de La Méridienne, une quotidienne de Radio Campus. Donc cette interview a été réalisée avec Antoine, qui est ici, donc Antoine qui est en stage à Radio Campus et qui réapparaîtra plus tard dans cette émission pour parler justement de son stage. Donc dans cette interview, Vanassaï parle précisément de cette performance Le Bain de Diane et de mille autres choses, donc on vous invite évidemment à aller sur le site de Radio Campus si vous souhaitez écouter l'entièreté de cette interview. Mais pour l'heure, l'extrait que l'on vous propose se concentre précisément sur ce projet, Le Bain de Diane, que l'on peut voir dans le cadre du festival Désir Désir.
Je vais créer donc vendredi une performance qui s'appelle Le Bain de Diane, que je crée avec Théophile Dubus. Voilà.
Et donc le Bain de Diane, on voit que c'est quand même... lié à la mythologie, c'est tout vraiment une thématique qui traverse ton œuvre.
C'est exactement ça, ouais. Ça traverse mon travail et puis ça traverse même mon corps, puisque je travaille beaucoup autour des métamorphoses d'Ovide, donc qui, je pense, est officiellement l'œuvre la plus queer du monde. Donc voilà, la plupart de mes pièces, en fait, et des textes que j'écris ont pour base des mythes extraits des métamorphoses d'Ovide. Qui globalement, en fait, bah, voilà, c'est un projet trans autour de la question globalement des transformations, comme le titre du livre l'indique. Et de fait, je suis dans une entreprise de transformation moi-même, puisque en ce moment, j'essaye de transformer mon corps en édition vivante des Métamorphoses d'Ovide. J'ai commencé un grand projet de tatouage pour progressivement bah, voilà, écrire le texte sur mon corps. Et donc bah, là, dans le cadre du Bain de Diane, on pourra avoir... le deuxième tatouage, parce que bon, j'en suis au tout début. Hein. Ça fait, voilà, c'est un budget, puis ça fait un peu mal. Mais voilà, le projet avance.
Alors quand même, ça c'est quelque chose qu'on a envie d'interroger dans ton travail. Déjà ton rapport à ton corps, et puis le rapport à la douleur. Parce que je pense notamment à l'invocation à la muse. Donc là, pour le coup, il y a un engagement physique, et il y a un travail autour de la douleur. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs sur ces questions-là?
Peut-être je parlerai plus d'un rapport à la sensation que d'un rapport à la douleur. La douleur étant une perception subjective d'un certain type de sensation, mais on sait tous que, justement, sous l'effet de certains états, et notamment de certains états érotiques, la question de la sensation, en fait, est transformée. C'est-à-dire que des choses qui peuvent être très douces peuvent être insupportables, et à l'inverse, des choses très violentes peuvent tout d'un coup être empreintes de douceur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de travailler sur la sensation que moi, je reçois comme interprète, mais toujours dans l'idée que ces sensations, par identification du spectateur et des spectatrices, est partagée en fait avec le public. Donc voilà, d'avoir un corps qui devient le vecteur de sensations qui sont ressenties par le public, ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est la fameuse théorie des neurones miroirs, hein, qu'en regardant quelqu'un percevoir certaines choses ou faire certaines choses, une partie du cerveau en fait s'active comme si la chose qu'on regardait finalement on la vivait soi-même. La démarche dans laquelle je suis est une démarche vraiment très inclusive, dans laquelle je m'autorise à vivre des expériences que j'aimerais aussi, je pense, vivre comme spectatrice ou comme spectateur. Donc voilà.
Mais parce que comment dire, ça va tu fais une enquête de terrain aussi, si on peut dire, pour je pense à justement cette invocation à la muse, parce que t'as été testé sur place à Berlin par exemple.
Tout à fait.
Des pratiques particulières, hein, dont tu pourras nous parler si tu le souhaites, parce que il y a vraiment un investissement physique, psychique dans ta recherche en fait, dans ton travail. Donc tu nous le dis en fait que tu en viens même à incarner. À écrire dans ta chair ce texte. Donc, en fait, qu'est-ce que tu aimerais dire là-dessus sur cette idée de tester avant des expériences de corps, d'état, avant d'en faire une création artistique?
C'est une super question, en même temps qu'elle est difficile, parce qu'elle pose la question en fait de la porosité entre la vie et l'œuvre, entre le travail artistique et la vie personnelle. Alors, étrangement, dans ma vie, ces deux choses-là, elles sont très distinctes. C'est-à-dire que vraiment, ce que je fais au plateau, c'est très différent de ce que je vis dans ma vie. Et en même temps, l'un forcément nourrit l'autre. Mais j'allais dire que, justement, alors sur certains des terrains qui, moi, m'intéressent du point de vue de l'érotisme, donc notamment tout ce qui est pratique, on va dire, j'irais pratique alternative, comme par exemple la question du BDSM, donc du sadomasochisme, du bondage, de la domination, c'est effectivement des choses que j'ai été expérimenter à Berlin, parce qu'à Berlin, il y a une caractéristique qui est que le travail sexuel est légal et que donc, en fait, on peut travailler assez facilement avec des travailleurs sexuels qui sont aussi performeurs et artistes. Donc, en fait, ça permet pour des personnes comme moi qui n'ont pas forcément ces pratiques-là dans leur vie quotidienne d'avoir des outils pour comprendre ces choses-là et pratiquer ces choses-là de manière très progressive, d'apprendre des choses, d'apprendre des techniques, et se rendre compte qu'en fait, par exemple, sur la question du BDSM, qui a beaucoup de choses... ce que je disais, par exemple, qu'avant, je ne les pratiquais pas. En fait, c'est plutôt que ces pratiques-là, quand on les a, permettent de prendre conscience du fait que dans plein d'aspects de notre vie, par exemple, les questions de domination, de soumission... Beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas dans des rapports de soumission ou de domination dans leur érotisme, en fait, je pense souvent le sont sans forcément le savoir. Le rapport à la sensation, c'est la même chose. C'est-à-dire que le fait de travailler avec quelqu'un qui assume et qui explore ces questions-là, donc là, je pense à ma partenaire Caritia Abel à Berlin, c'est quelqu'un qui me permet de pousser des choses qui sont en réalité déjà à l'état embryonnaire, je pense, dans toute sexualité, y compris, du coup, la vôtre et la mienne, quoi. Je dirais que l'une des choses qui m'intéresse, c'est peut-être de décloisonner l'idée d'une normalité et d'une anormalité sexuelle. Je pense que c'est une frontière que j'essaye de flouter un petit peu, parce que je crois qu'il y a peu de sexualité, peu d'érotisme qui sont entre guillemets normaux, que les concepts de normes à cet endroit-là sont pratiquement tout le temps oppressifs, et que donc on a intérêt à penser... ses propres pratiques sous l'angle de leur atypisme plutôt que de leur orthodoxie.
Et alors cette, comment dire, puisque tu le dis, hein, ta compagne là sur scène est performeuse et dans cette culture BDSM de Berlin, mais alors est-ce qu'il n'y a pas une dimension documentaire aussi à ton travail ?
Une dimension documentaire, je dirais pas ça, mais par contre, évidemment, je m'appuie sur beaucoup de documentation et beaucoup de recherches. Donc, il y a effectivement une pratique de terrain qui est une forme d'accumulation d'expériences, de sensations, de connaissances aussi, hein, c'est très important. Par contre, après, pour moi, il y a vraiment, dans mon travail de création, la partie, je dirais, fictionnelle, d'une part, elle est très importante. Donc, j'opposerai la fictionnelle à documentaire. C'est-à-dire que justement, parce que je me ressaisis pratiquement tout le temps de ces mythes, il y a vraiment tout le temps pratiquement une fable narrative dans mon travail qui sort du côté documentaire. Par exemple, Caritia Abel dans l'invocation à la muse. Donc effectivement, Caritia est travailleuse du sexe et dominatrice, mais dans cette performance, elle intervient comme une figure de la muse. Donc elle met à profit ses compétences, mais elle joue un rôle qui est celui de la muse. De la même manière, moi, dans Le Bain de Diane, que je joue donc vendredi au Musée des Beaux-Arts, j'ai fait des recherches pour cette performance, mais dans le cadre de cette performance, je joue un rôle qui est celui d'une nymphe échappée d'un tableau. Donc il y a toujours en fait un biais fictionnel qui, pour moi, écarte ma pratique d'un théâtre que j'appellerais documentaire.
Mais alors, comment dire, l'idée aussi de faire entrer un texte dans ta chair, dans ta peau, parce que ça fait penser aussi à Orlan, par exemple, qui travaille avec son corps. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la réalité et la fiction vont se fusionner ? Comment tu vas faire ? Parce que si donc tu es une nymphe quand tu es en scène, sur scène, tu es Vanassai quand tu n'es pas sur scène, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où, en fait, pourras plus être si tu fais entrer dans ta peau en fait un texte. Comment ?
C'est une bonne question. Pareil, c'est vrai que le tatouage à cet égard et toutes les pratiques du body art, tu parlais d'Orlan tout à l'heure, m'intéresse parce que en fait elle crée, je dirais, des espèces de zones communes entre la fiction et le réel. C'est-à-dire que effectivement un acteur qui est tatoué, quand il monte son tatouage sur scène, est-ce que c'est le personnage qui est tatoué, est-ce que c'est l'interprète qui est tatoué, en l'occurrence il y a une zone là d'indécidabilité qui m'intéresse. Donc cette zone de flou, oui, elle m'intéresse. Après, encore une fois, dans ma tête, les choses sont relativement claires. Dans ma pratique, la question du trouble, du floutage de ces frontières-là...
Moi, j'aurais aimé savoir pourquoi s'intéresser d'abord à Diane.
Alors, pourquoi s'intéresser à Diane ?
Est-ce que tu peux nous rappeler qui c'est ?
Bien sûr. Donc, Diane, c'est la déesse de la chasteté. Dans la mythologie latine, dans la mythologie grecque, elle s'appelle Artémis. Donc, c'est la déesse de la chasteté et de la chasse en même temps. C'est celle qui rivalise avec les hommes sur le terrain très masculin qui est celui de la chasse, ce qui fait que c'est une figure qui en soi est déjà très ambiguë d'un point de vue sexuel. Et par exemple dans le film de Christophe Honoré sur les métamorphoses, je crois qu'elle est interprétée par une femme trans. En tout cas c'est une femme qui, c'est une figure qui a à la fois une poitrine féminine et je crois me souvenir qu'elle a un pénis. Donc voilà, c'est une espèce de figure de l'androgynie, de l'hermaphroditisme, qui sont en soi des figures, moi, qui m'intéressent. Puis, donc, cette pièce, en fait, c'est vraiment une pièce qui est créée pour les musées. Donc, on est très content de jouer là au musée de Tours et de créer cette pièce au musée de Tours, dans le cadre du festival Désir-Désir, parce que le mythe de... Enfin, l'un des mythes les plus connus autour de Diane, c'est le mythe d'Actéon. Donc Actéon, qui est ce chasseur qui surprend Diane de retour de la chasse en train de se baigner dans une source. Et Diane, donc, qui est très jalouse de son intimité, de sa nudité, qui ne veut pas être vue, a fortiori, par des hommes, donc punit Actéon en le transformant en cerf. Et Actéon, donc, ce chasseur transformé en cerf, se retrouve être la proie de ses propres chiens, qui se retournent contre lui et qui le dévorent. Donc c'est vraiment le mythe d'Actéon qu'on aborde dans cette création, puisque le mythe d'Actéon est un mythe qui pose à la fois la question du regard interdit, ce qu'on n'a pas le droit de voir, et puis qui pose la question du désir, puisque il est question d'un désir qui se retourne contre celui qui le ressent, puisque le chasseur devient un chassé, puisque voilà, celui qui veut dévorer du regard se retrouve dévoré par ses chiens, en l'occurrence. Donc, voilà, le musée, Désir-Désir, c'était un peu la conjonction parfaite, en fait, pour aborder toutes ces problématiques à la fois de la vue et du désir.
Où et quand on peut voir cette performance dans le cadre du festival Désir-Désir ?
Le Bain de Diane, donc ça se jouera vendredi 24 janvier à 18h30. Et 19h15 au Musée des Beaux-Arts de Tours, place François Sicard. La jauge est limitée, parce que c'est une expérience intime, donc il faut réserver auprès du musée. Et juste, si moi je peux redire ma joie aussi de participer au festival Désir-Désir et contribuer à la visibilité des communautés LGBTQI sur Tours, c'est vraiment, je suis très... très très heureuse d'avoir cette occasion de faire ça dans le cadre du festival.
Eh bien merci Mélissa pour cette interview. On va faire, et Antoine aussi, on va faire une petite pause musicale. On va justement écouter Les Solides de Gérard Kurdjian, un choix musical justement de Van Assaï.
La ville est un enfer calme comme le couteau. L'animal. Le vide est un enfer calme comme l'eau. Creuse les montagnes, sillonne la peau. Que nous sommes là, ça, des couleurs passées. Qui se matent, les visages se ferment grave aux écrans vitraux. au récit du monde idéal. Sous les manteaux, sur les champs de bataille, avions mirage, tonnes d'images empilées. Tant que des foules, comme pierres qui roulent, dépensent l'or, l'ego, les forces, l'au-delà. S'amène dans les salles de gym, des corps d'usine, d'hommes machines, des visions. Comme un défaut qui manquerait de proie et qui se sécanine sur le bois. Des formes gelées, comme on aime plus.